Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à la poésie contemporaine. À l'ordre du jour ce soir, qu'est-ce que la poésie dit du monde d'aujourd'hui ? Samedi a commencé dans toute la France le printemps des poètes dont finalement on parle beaucoup moins maintenant qu'il a débuté que lorsque s'est déclenchée il y a un mois et demi la polémique sur le parrainage de cette manifestation annuelle par Sylvain Tesson. Or la poésie qui s'écrit et se dit aujourd'hui est bien plus riche et variée qu'elle ne l'était sûrement il y a deux décennies. Sans être aussi populaire que celle qui se développe et se renouvelle actuellement aux États-Unis, elle embrasse écologie, antiracisme, violence sexiste et sexuelle, combat LGBTQI+, mari, performance scénique et édition. Elle n'est pas seulement un pur exercice formel, mais engage le corps du poète ou de la poétesse pleinement dans le corps social. Nous allons en parler avec nos trois invités. Avec nous en studio, Aurélie Olivier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes poétesse, autrice du recueil Mon corps de ferme, et co-directrice de littérature, etc. Et également initiatrice et préfacière de Lettres aux jeunes poétesses. C'est aux éditions de l'Arche. Avec à distance, Pierre Vinclair, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes poète, cofondateur de la revue Catastrophe, et vous venez de publier au Castor Astral, c'est aujourd'hui, Complainte et compagnie, Complainte & Co, c'est donc votre dernier recueil. Avec nous également à distance, Joël Sambi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes artiste et poétesse venue du slam. Votre recueil Et vos corps seront caillasses est paru le 16 février dernier aux éditions de l'Arche.
Depuis l'arrière des remparts, dehors, hors les murs, extramuros, ex-cathédra, depuis le bruit des parcelles, depuis le bled, on rampe, on danse, on souk à faire blêmir le soleil. Mais alors devine ma colère. Devine ma colère. Ma rage même éteinte ou tamisée. Joue les notaires, joue les huissiers et compte chaque frère, chaque sœur noyée. Et si nos noms sont des tourbillons, pour chaque vie mal nourrie, pour chaque vie maltraitée, nous serons la nuit noire de vos culpabilités absentes. Nous serons la solitude et la tourmente de vos cœurs charognés. Devine les insultes et les bannissements. Devine les rivières débordantes de sang et les prières des hypocrites et les sermons des hippocrates charlatans. Et la foule qui trace nette et précise la collective mémoire bien propre sur elle.
Un extrait de vous, Joël Sambi. Vous performiez à Fusion, c'était au Théâtre des Dons, dans le Festival Off d'Avignon. C'était il y a deux ans, en 2022. Qu'est-ce que, justement, cette liaison entre la performance scénique et aussi, effectivement, l'écriture que vous pratiquez quotidiennement ?
La liaison, elle est venue assez... naturellement, dans la mesure où le slam, c'est de la poésie qui doit être oralisée, qui doit être dite sur scène, qui doit être partagée. Et donc, très vite, à partir du moment où j'ai commencé à écrire de la poésie, je suis montée sur scène et j'ai commencé à la dire. C'est vraiment la principale différence, si vous voulez, que je mets entre le slam et la poésie. Et la scène, après, ce qui est assez génial, c'est que la scène permet de d'étendre comme ça un peu plus que la feuille, quoi.
Et cette colère dont vous parliez, c'est au cœur de votre recueil dernier, le dernier qui s'intitule donc « Et vos corps seront caillasses ». On sent effectivement dans chacun des poèmes de ce recueil, paru donc aux éditions de l'Arche, la colère, mais aussi l'édulcoration, pourrait-on dire, de cette colère, en la transformation en autre chose, c'est-à-dire en début d'action d'une certaine manière.
Oui, parce que... tout ce qui, certes, la poésie, ce sont des mots, mais c'est ancré, ça part de quelque part, c'est situé. Ce dont je parle dans mes écrits, est tiré de mon quotidien, du quotidien des miens, des gens autour de moi. Le poète n'est pas hors sol ni en dehors de la cité. Il en effet, il y a difficile de pas être en colère en ce moment. Enfin, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été possible de ne pas l'être en réalité.
Oui, c'est ça. Effectivement. Aurélie, Olivier, ça vous va, cette définition de la colère? Ou est-ce que c'est d'une certaine manière, puisque vous avez accueilli avec l'être à une jeune poétesse ou aux jeunes poétesses, vous avez accueilli des visions différentes, pourrait-on dire, de la poésie, peut-être différentes de celles que vous pratiquez vous-même. Est-ce que ça vous va, cette question où la colère est au centre, ou au contraire, c'est une des formes possibles de la poésie que vous pratiquez vous-même et que vous accueillez dans les collections que vous faites?
En tout cas, moi, je crois que la poésie qui me touche le plus, c'est celle qui, depuis la colère, c'est une colère qui n'arrive pas à être entendue et qui réalise ce miracle-là d'aller au-delà du cri et du coup de toucher bien plus, de manière bien plus profonde que ne toucherait seulement un cri, et bien plus longue, et aussi grâce à l'édition, quoi. C'est-à-dire que ça va, un cri c'est éphémère, et la poésie écrite, elle va circuler, elle va permettre d'avoir une histoire, une mémoire. C'est, je crois que c'est cette poésie-là qui me touche, celle qu'on devrait, enfin des paroles, des visions qui ne sont pas assez entendues. C'est celle-là qui me bouleverse le plus.
Comme le dit Joël Sambi, c'est cette poésie qui vient des marges, c'est-à-dire avec cette idée qu'il y a effectivement, on remet la marge au centre, on la met dans ses propres poèmes pour que d'un seul coup, eh bien, cette marge apparaisse en pleine lumière.
Ouais, je crois que c'est ça qui me touche le plus. Enfin, ce que j'entends déjà tous les jours, ou la vision la plus dominante, c'est sûr qu'elle, comme objet d'étude, comme objet d'écriture, elle m'ennuie assez, ouais.
C'est intéressant parce que dans votre recueil que vous avez initié, Lettre aux jeunes poétesses à l'Arche, il y a des visions très, très variées. Mmh. On pourrait dire qu'il y a Ryoko Sekiguchi qui dit la poésie est l'affaire de la langue et rien d'autre que cela. Et je ne suis pas sûr que ce soit exactement votre position à vous, mais c'est la position, ça n'est sûrement pas la position de Rim Battal, qui a été une de celles qui est montée au créneau contre le parrainage du Printemps des Poètes par Sylvain Tesson. Elle dit « Ce qui tue, ce n'est pas la poésie, ni les émotions, ni les expériences. Ce qui tue, c'est l'inaction, les blagues sexistes et aussi les mains au cul. »
Ouais, alors ce serait intéressant de voir quand est-ce que Ryoko a dit ça, parce que je pense que dans toute son œuvre, il y a vraiment il y a différents
elle
moments.
Elle a dit, non mais dans votre recueil, c'est là où je l'ai pris. Voilà, la poésie est l'affaire de la langue et rien d'autre que
ça. En tout cas, ce qui m'intéressait dans ce recueil, c'est la diversité, la pluralité des voix, surtout que je l'initie à un moment donné où je travaille au Centre Pompidou, dans les archives, et donc j'ai accès à des décennies en fait de poésie sonore, et quand je regarde les archives, il n'y a quasiment pas de voix qui ne serait pas masculine. Et je ne parle même pas des minorités de genre. La question de... évidemment, la majorité des archives, c'est des archives aussi blanches. La question de la classe sociale, je vous laisse deviner. Et du coup, c'est vrai qu'en voyant ça, ce qui va faire l'histoire finalement de la poésie, puisqu'il y a des archives, donc le pouvoir de l'histoire, je me dis, mais en fait, il y a toute une scène poétique qui...
Que vous connaissez.
Que je connais très bien.
Et qui n'est pas représentée par ça.
Exactement. Et donc, c'est ça. Mais c'est important de montrer dans ce livre, en tout cas, la pluralité et générationnelle, et des styles, et des points de vue. Enfin, on est loin de... L'idée, c'est pas de reproduire un nouveau conformisme, quoi.
Oui, Rim Battal, dans votre recueil, dit d'ailleurs à un endroit, la poésie, ce n'est pas un fascicule de développement personnel, ce qu'on aurait plutôt tendance à penser. D'ailleurs, quand on a dit qu'on faisait cette émission, beaucoup de gens dans la radio ont dit « Ah, ça va changer avec l'actualité, ça va être moins dur, la poésie, c'est ça met du baume sur le cœur ». Ça n'est pas exactement ce qu'on trouve chez aucun d'entre vous, d'ailleurs, des trois invités de ce soir. Mais Rim Battal, vous racontez dans votre dernier recueil, qui vient tout juste de sortir, puis revient Claire, donc Complainte & Co, vous racontez que vous avez été en battle avec elle, d'une certaine manière, parce qu'elle disait qu'il y avait des mots qu'il ne fallait plus utiliser, les mots qui avaient été trop usés par la poésie justement classique, pourrait-on dire, les mots âme, les mots éternité, les mots silence, et vous avez fait une liste de mots, et vous vous êtes amusé vous-même à les reprendre dans un poème, Pierre Vinclair, et ensuite à les réintégrer dans d'autres poèmes en disant, mais non, il n'y a pas de mots qui nous sont interdits.
Oui, tout à fait. La battle était une battle quand même très amicale. Elle partait d'une remarque de Rime Battle qui disait effectivement qu'il y a certains mots qui ont été trop utilisés par la tradition et qui, en tant que tels, ne devraient plus être utilisés pour qu'on puisse voir le travail à l'œuvre du poème aux prises avec le monde réel. Ouais. Au monde réel, moderne, tel qu'il arrive, etc. Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que le poème, il doit être aux prises avec la réalité, y compris dans ce qu'elle a de plus bouleversante, tragique, elle nous met en colère, etc. Simplement, je pense que le fait que certains mots soient galvaudés doit pas nous empêcher de réfléchir à des nouvelles configurations poétiques qui nous permettraient de les réintégrer et de les faire revivre, justement, de les réanimer, ces mots-là.
C'était l'opalescence que ne voulait pas utiliser Rime Battle, et vous avez dit, moi, je peux le mettre dans un poème.
Voilà, je pense qu'on peut tout utiliser, justement pour la raison que disait Aurélie tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le poème peut avoir lieu quelque chose qui est de l'ordre du miracle de la formule, et effectivement, asséner des mots édifiants n'a aucun intérêt. Par contre, si on trouve une manière de créer ce miracle de la formule, on peut le faire aussi avec tous les mots, et aussi avec des cris, et aussi avec tout. Enfin, je suis... inclusif.
Oui, mais ce qui est vrai, effectivement, c'est qu'entre miracle de la formule et miracle du slogan, on voit comment, par exemple, certains de nos hommes politiques contemporains, et le président, d'ailleurs le premier d'entre eux, utilisent des phrases de René Char sorties, effectivement, des feuillets d'hypnose ou d'autres grands recueils de poèmes de René Char comme une sorte de développement personnel, justement, comme le critiquait Rime Battle. On se dit, ça doit être un peu difficile de fabriquer des formules au sein d'un poème et de ne pas en faire un slogan, Pierre Vinclair.
Ça pose la question que vous posiez aussi tout à l'heure de l'action. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut, avec des poèmes, inciter les gens à l'action ? Et effectivement, là, les formules vont peut-être avoir tendance à se transformer en slogan. Ou est-ce qu'on veut, quand on regarde la poésie de René Char, franchement, c'est difficile de penser que,
oui,
en tant que tel, c'est des slogans.
Vous avez raison.
Ça nous met dans une forme de perplexité, plutôt, qui nous déprend de toute action, à mon avis.
Oui, c'est vrai que c'est effectivement assez lointain. En tout cas, ça a fait son chemin pour que ça devienne parfois des slogans politiques. Joël Sambi, qu'est-ce que vous pensez de cela ?
Moi, je crois que quand on écrit de la poésie, à partir du moment où les mots sont couchés et sont partagés, ils ne nous appartiennent plus. Quand moi j'écris un poème, mon but n'est pas tant de faire slogan ou de rassembler autour d'une cause, etc., mais bien de pointer. Ou de montrer, de raconter, de laisser une trace, de montrer qu'il y a d'autres mots, d'autres vécus, d'autres façons de concevoir le monde, de le nommer, de le décrire, etc. Et après, c'est vrai que après ça, c'est tout un exercice aussi dans l'écriture qu'on a vite fait de tomber dans des formules convenues, etc., etc. Ça, c'est le travail de la langue, c'est le travail de l'écriture, mais je crois que à partir du moment où un poème est écrit, chacun en fait ce qu'il a envie d'en faire, quoi. Et que ce soit un poème de René Char ou d'Audre Lorde, finalement, en fonction de là où on se situe, on se saisit de ce qui nous parle et de ce qui nous permet d'avancer.
Aurélie, Olivier, comment on se saisit justement de son enfance rurale dans une ferme du Trégor pour pouvoir en faire mon corps de ferme et transformer d'une certaine manière? Moi, c'était la première fois, je vous ai lu il y a peut-être un an et demi ou deux ans, c'est la première fois que je voyais effectivement le terme de Roundup, par exemple, intégrer un poème. Alors je sais, je suis un grand lecteur de romans policiers, je sais combien Jean-Patrick Manchette a été un rénovateur du roman policier en utilisant les marques, etc., dans ses romans policiers. J'avais moins l'habitude pour la poésie. C'est faire rentrer le tracteur John Deere dans la poésie contemporaine, et on se dit, c'est aussi un fragment du réel qui rentre dans cette poésie.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes les langues, et peut-être encore plus celles qui sont considérées comme pas intéressantes, ignobles.
Y compris la publicité.
Y compris la publicité, parce qu'en fait, on est fabriqué par ces langues, et du coup, ça m'intéresse de les interroger. Donc quand j'écris le Roundup harnaché pulvérisateur dorsal, eh ben c'est pour moi c'est tout un monde déjà qui s'ouvre et qui est pas assez entendu. Et après moi je travaille beaucoup au niveau de l'écoute de la langue, vraiment l'écouter très très profondément, la décaler un tout petit peu pour qu'on puisse, que les autres, en tout cas les lecteurs, les lectrices, puissent vraiment l'entendre. Mais après, oui, toutes les langues m'intéressent.
C'est ce qu'on appelait dans les cours de littérature qu'on pouvait avoir quand on était au lycée, c'est ce qu'on appelait les registres de langue, avec des registres qui ne pouvaient pas cohabiter ensemble. Vous voulez justement prendre la langue la plus triviale, effectivement, des slogans publicitaires ou de la télévision, et la mélanger avec une autre langue, la mélanger avec le milieu dans lequel vous étiez, pour pouvoir justement redonner une vérité aussi à ce qu'était cette expérience de la ferme quand vous y avez grandi pendant les 18 ans que vous y avez passé.
Ouais. En tout cas, pour moi, ce serait hyper dur de parler de cette enfance dans le milieu agroalimentaire en parlant de d'âme ou d'éternité, même si c'était par ailleurs un milieu très catholique.
Vous parlez un peu de l'Église, effectivement, vous en parlez des cérémonies religieuses.
Oui, donc du coup, j'ai repris la langue de mon enfance pour pouvoir l'écouter au mieux dans tout ce qu'elle a de si commun et en même temps si singulier, si tout ce qu'elle a déjà d'extrêmement politique, quoi.
Pierre Vinclair, dans votre dernier recueil qui vient donc tout juste de sortir aujourd'hui, vous dites dans Complaint Kenko, vous faites des complaintes de à la fois de l'intérieur de la maison, mais aussi des complaintes de personnages de Shakespeare et des complaintes aussi de métiers que vous mélangez, justement. Il y a la complainte du serrurier, il y a la complainte de tout un tas de personnages, la complainte du garagiste, qui nous permettent d'une certaine manière, et qui vous permettent peut-être de décrire des individus réels dans le monde réel, mais en même temps de les transformer.
Alors, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Aurélie. Je pense que il faut vraiment concevoir que le poème, il peut faire feu de tout bois et tout intégrer dans son travail. Et quand j'ai écrit ce livre, j'avais un peu l'impression d'être comme une espèce de, je sais pas, d'explorateur, d'aller à la rencontre des gens qui sont dans le réel, tout un tas de gens possibles. Et puis, avec cette rencontre, il y avait une espèce de poème qui se précipitait comme ça pour qui dégoulinait des personnes et que j'essayais de ressaisir dans la syntaxe, dans le travail de la langue, etc. Et donc c'est un peu, oui, une espèce de travail de je sais pas comment dire, d'anthropologie sauvage, comme dit Julie Anselmini, et à partir de ça, de faire sortir des voix comme ça qui sont en même temps un petit peu inouïes, inédites, mais qui proviennent des gens les plus, des gens qui sont partout, quoi, des gens normaux.
En particulier des auditrices de la radio. Complainte de l'auditrice radio. Oui. Je pose trois petits, dit l'auditrice, cubes de sucre les uns au-dessus des autres, la tête, le tronc, les jambes. Je leur donne le nom de l'intellectuel qui pérora la radio, l'experte véritable, et je les pousse dans mon café où ils se diluent vite. Ou encore, on n'imagine pas les minutes d'attente, le réglage du son. Et je pense à Jordan Fuentes qui est derrière la régie. On n'imagine pas les minutes d'attente, le réglage du son et les gestes précis des techniciens, cérémonie contre cérémonie, sacré et sacrifice. On voit que vous l'écoutez, la radio.
Oui, il y a beaucoup de complaintes qui sont en fait des espèces d'autoportraits à la Cindy Sherman, où en fait je prête à des personnages des attitudes ou des comportements qui sont les miens. Et moi j'écoute beaucoup la radio, et c'est vrai que du coup j'ai essayé aussi de sonder pour moi-même ce qu'il y avait dans cette expérience-là, quoi. Et ce qui m'intéresse dans la radio, c'est que c'est un discours qui vient à l'intérieur de la maison, qui est a priori un endroit, quand on y est tout seul, où il n'y a pas de discours, et de voir ce que comme ça, comment le poème peut ressaisir des discours qui viennent de l'intérieur, et puis avec son travail syntaxique, les emmener quelque part ailleurs. Plus généralement, moi j'ai l'impression que le travail du poème, c'est d'arriver dans un monde en ruine, où les ruines sont des ruines de discours, et à partir de ces ruines de discours, de refabriquer quelque chose qui retrouve l'acte du feu de la parole, quoi.
Vous écoutez Le Temps du Débat, nous parlons poésie aujourd'hui. Qu'est-ce que la poésie nous dit du monde d'aujourd'hui, en compagnie donc d'Aurélie Olivier, poétesse et autrice du recueil Mon corps de ferme, de Pierre Vinclair, qui vient de publier Complainte & Co. au Castor Astral, et de Joël Sambi, qui vient de publier Et vos corps seront caillasses aux éditions de l'Arche. Il est 18h40 sur France Culture.
Genève, la nuit est humble, humide. Elle s'est dévêtue de ses bas de mauvais nylon frottés aux pylônes dressés et rentre au pavillon par le train de Zurich. Nulle révolution de mots bouillants pendant que bombe brouille, visage frère, et je m'en vais glissant léger, songeant par les tunnels « The poem is a dream, a dream ». Cela veut dire un drame. Un talus interpose « Halte là !» Épine de buisson, ortie stimulant la douleur de voir le fleuve et l'œuvre vraie du monde, d'une main mâle, un coulant caresse la terre, s'offre en surface et tient la montagne serrée, l'étourdissant du geste chaud de son limon en la frôlant. Elle lui rend, émue par nuages de pluie, la chair de poule piquant le reflet bleu de leur romance doucement. Longtemps, ils se découvrent, peau liquide se cherche, se réclame, peau dure s'embarrasse, varie de position sous l'œil gras du soleil, du ciel gris et s'embrasse, embrasse, l'oubli de tout ce qui les mène, où ça? Le néon intérieur ne réfléchit plus sur ma vitre que l'arc-en-ciel d'une interrogation. De quel point de vue la montagne croit-elle dominer le Rhône puissant? Fiction des mots d'amour, le fleuve en se laissant aller a creusé la forme des lieux, pour qu'elle l'admire, se cambre à son passage, qu'elle le rive au clou de leur désir, clémence de ce désir, désir de ce désir, qui nous fait être.
Un extrait d'une de vos poésies, L'amour du Rhône, désir de fleuve pour mon vu de train, du train. Un extrait du recueil L'éducation géographique, lu par vous, Pierre Vinclair, dans l'émission Poésie et ainsi de suite sur France Culture, une émission qui est indispensable pour la poésie contemporaine. Vous l'écoutez tous les samedis de 15h30 à 16h sur France Culture. Vous pouvez évidemment l'écouter aussi sur le site de Radio France et sur l'appli de Radio France. Joël Sambi, une des questions qu'on se pose et que je n'avais pas perçu, c'est par exemple, puisqu'on tourne autour des mots, poète ou poétesse?
Poétesse.
Poétesse, parce que dans le recueil justement de lettres aux jeunes poétesses, Sophie Géluca écrit « Je ne renoncerai pas au mot poète, il m'aura fallu toute la vie pour l'affirmer, c'est mon combat, c'est ma victoire. Poétesse est le mot d'un sous-genre, d'une sous-catégorie à part, c'est ainsi que je l'entends. Alors, laisse-moi le mot poète, c'est mon butin de guerre », dit Sophie Lucas. On voit bien que sur ces questions de qualificatif, pourrait-on dire, de ce qu'est un poète ou une poétesse, eh bien, il y a des définitions différentes. Vous, dans votre définition de combat, pourrait-on dire, il y a aussi toute la dimension, effectivement, raciale que vous développez, la dimension sexuelle, LGBTQI+, qui sont, disons, des mots extrêmement forts que vous qui percutent le lecteur. Je peux dire que effectivement, pour avoir lu votre recueil récent, il y a vraiment des poèmes qui sont extrêmement percutants, qui rentrent presque dans le corps du lecteur.
Oui, je pense que, enfin, tant mieux. Si c'est,
bah
si
oui,
c'est
je vous ça. Le dis, je vous le dis, et c'est un compliment, c'est pas une droite, c'est pas un reproche.
Ah non, mais je le prends vraiment pour ce que c'est, pour un compliment. Merci. Je crois que quand j'écris, c'est avant tout ce qui me travaille, c'est au-delà du. Il y a d'abord évidemment le sens, le propos, mais c'est comment est-ce que comment les mots, vous avez dit percuter, vous avez dit rentrer dedans. Il y a un truc de, il y a la recherche du rythme, justement de cette, de cette cadence là dans les mots. Et après, c'est toujours très intéressant d'avoir des retours sur comment les gens perçoivent, comment ils les lisent, ce qu'ils entendent, ce qu'ils lisent entre les lignes, ce qu'ils lisent sur les lignes mêmes.
J'imagine qu'il y a autant d'interprétations que de lecteurs, ça c'est tout à fait
évident. C'est certain. C'est certain, mais après, bon, c'est sûr que, avant tout, pour moi, ça me parle beaucoup, le fait de savoir qu'un texte, en tout cas, avant de le sortir, je cherche sa musique. Je cherche, peut-être parce que je l'oralise beaucoup. Je les écris, certes, mais je les dis à voix haute très vite. Et ça, c'est important. Après, la question de poète ou poétesse, enfin, oui, enfin, j'en fais pas une lutte en soi. J'ai envie de dire qu'on est à la place qu'on occupe et que l'on voilà, que je sois poète ou poétesse. Moi, je dis poétesse, d'autres diront poète. D'ailleurs, on dit même poétasse pour
Oui, exactement. Fait. Vous le dites d'ailleurs dans votre recueil, effectivement. Quand vous dites que la poésie n'est pas un luxe, que ta poésie est une folie, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
C'est on a comme ça les représentations de l'image du poète comme étant un personnage un peu dans les nuages, hors sol, hors de la cité, qui a des mots qui ne sont que qui sont presque éthérés et qui ne sont pas performatifs. Pour moi, la poésie, c'est quelque chose de très concret. C'est tout aussi nécessaire, indispensable que le travail que va faire un historien, par exemple, ou que voilà, ça dit un monde, ça dit une époque, ça donne un point de vue sur un sujet, et c'est fou de se dire que les mots agglomérés les uns mis à la suite des autres servent aussi à ça. Ils permettent de détruire, ils permettent peut-être de conscientiser ça, j'en sais rien, mais en tout cas, il ne laisse pas indifférent, quoi. Oui, et rien que pour ça, la poésie est une folie.
Vous avez raison, et vous vous adressez en particulier à Audre Lorde, justement, la poésie n'est pas un luxe, ta poésie est une arme létale, tu charges, tu décharges, tu aiguises, tu rafales, tu creuses, tu grand remplaces. Aurélie Olivier, une des questions, c'est ce renouvellement dont vous êtes tous les trois les acteurs, d'une certaine manière, et les actrices, ce renouvellement de la poésie, est-ce qu'il vient aussi d'un certain succès, comme je le disais en ouverture de cette émission, d'une poésie qui est beaucoup plus présente, en particulier aux États-Unis, de figures qui nous viennent des États-Unis, ou est-ce que c'est simplement parce que, d'un seul coup, vous avez trouvé les unes et les autres, vous avez trouvé les chemins pour toucher un public plus large qu'il ne l'était auparavant?
En fait, je pense que vraiment, on n'a pas inventé la poésie. Je pense que la poésie populaire, elle a toujours existé. Peut-être que, par contre, aujourd'hui, elle est audible sur une radio nationale. C'est peut-être ça la différence, mais je pense qu'elle a toujours existé. Cependant, elle a peut-être aussi été moins imprimée. Et du coup, il y a une histoire, une filiation qui nous manque en partie.
Mais elle était chantée, par exemple, effectivement.
Oui, c'est clair. Mais même pour moi, vraiment, le rap, c'est de la poésie. Enfin, clairement. Il n'y a même pas de... À part sauf qu'ils savent rapper en plus, quoi. Mais, ouais.
Et puis, elle était chantée auparavant. Effectivement, les grands poètes ont été mis en musique dans les années 50. Enfin, ça faisait partie, effectivement, comme la grande poésie d'autres pays, d'une manière de transmettre la poésie par la musique. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez raison, le rap fait partie de tout cela. Pierre Vinclair, qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça.
Eh ben, il faut.
D'abord parce que, à mon avis, la poésie, elle était pas si absente que ça de la radio, par exemple. Les émissions de Jean Dev, de Claude Royer-Journoux.
Bien sûr.
Il y a eu toute une tradition de
André Velter.
Exactement. Ouais. Alain Weinstein, dans les années 60, 70, 80.
Bien sûr, vous avez tout à fait raison.
Ce qui par contre, est différent, sans doute, c'est le fait que la poésie populaire, maintenant, vient à France Culture, alors qu'avant, c'était peut-être une poésie qui était considérée comme plus élitiste ou plus hermétique. Mais à mon avis, moi, cette opposition entre poésie populaire et poésie hermétique, moi, elle me convainc pas trop. J'ai l'impression que tout à l'heure, Aurélie disait que la poésie un peu élitiste l'ennuyait. Moi, elle m'ennuie pas du tout. Elle me passionne.
Et j'ai l'impression une petite différence d'approche, visiblement.
J'ai l'impression qu'elle essaye de faire la même chose, mais par d'autres moyens. C'est-à-dire qu'une poésie qu'on peut considérer comme formelle, C'est une poésie, en fait, qui essaye, à mon avis, hein, de faire travailler la forme contre le contenu pour arriver au même crépitement, au même miracle de ce dont on parlait tout à l'heure, et qui demande de la part du lecteur une implication sans doute un petit peu plus forte, parce qu'on lui demande de recréer le poème, en quelque sorte. On a tous le souvenir des explications de texte de la poésie classique à l'école, où il faut 2 heures pour lire un poème de Baudelaire ou de Rimbaud, mais parce qu'il faut 2 heures pour l'écrire. Et en fait, on demande au lecteur d'être dans une position non pas passive, mais d'être lui-même dans une position d'acteur, de refabriquer, de porter des hypothèses, etc. Et donc moi, la poésie élitiste, si on veut le dire comme ça, ou hermétique, elle me passionne, parce que j'ai l'impression que par un autre moyen, elle trouve aussi quelque chose qui pour moi est du même ordre que du rap. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, la poésie, c'est une sorte d'art total, si vous voulez. C'est une espèce d'opéra sur la feuille. Et je dirais que le rap, il est un petit peu plus faible parce qu'il a besoin de beats et de musique, quoi. Les textes, ils n'arrivent pas complètement à tenir tout seul. C'est pas mal, mais c'est un petit peu plus faible. Alors que le poème, il arrive à faire le beatbox, le flow, les insultes, tout sur sa page.
Et la battle en même temps, effectivement. Joël Sambi, qu'est-ce que vous pensez justement de cette approche un tout petit peu différenciée entre Pierre Vinclair et Aurélie Olivier ?
Bah, je crois que en réalité, la question, moi, qui m'intéresse, c'est surtout qui est-ce qu'on entend, quoi. On parle de poésie, ouais, un peu élitiste, mmh, ou de la poésie populaire. Au final, ça reste une poésie d'homme blanc cis het pendant, voilà, selon l'endroit où on se situe, bien évidemment. On va à Kinshasa, ce sera une poésie d'homme noir cis het, et donc c'est toujours la question de qui parle, et d'où il parle, et quelle est la poésie que l'on entend. Aujourd'hui, on est sur les chaînes de radio, et effectivement, là, on est occupé à parler de slam, de poésie, c'était peut-être moins le cas avant, d'entendre parler d'Audre Lorde, d'entendre parler de thématiques LGBTQIA+, de femmes, de noirs, de racisme, de ces choses-là. C'est à cet endroit-là que, pour moi, ça se joue bien plus que sur est-ce que c'est... voilà, est-ce que on avait plutôt une poésie élitiste à la radio ou une poésie populaire?
Aurélie Olivier.
Moi, pour reprendre les paroles de Aya Nakamura, je dirais j'ai pas ton temps, en fait. Et il y a vraiment ce truc, j'ai pas 2 heures pour lire un poème dans ma vie, en fait. Enfin, il y a un truc comme ça de... Moi, j'aime les choses qui me touchent tout de suite, et peut-être avec un premier impact, puis un deuxième impact, puis j'y repense. Mais là, si je dois essayer de décrypter... Enfin, il y a un truc du formalisme qui me...
Qui vous repousse ou qui vous...
Qui me laisse à distance.
Qui vous laisse
à
distance.
Moi, j'aime les choses qui me touchent, quoi. Mais littéralement.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit d'ailleurs dans le recueil que vous avez initié, ce que dit Lisette Lombé, quand elle dit « La poésie, c'est la distance la plus courte entre deux êtres humains ».
Alors ça, c'est une citation qu'elle fait, c'est pas directement elle. Mais ouais, j'aime ça. Ouais, j'aime cette phrase-là.
Cette immédiateté ?
Ouais, j'aime cette immédiateté, mais c'est comme un truc paradoxal, c'est une immédiateté, mais sur le temps long.
C'est-à-dire Alors attendez, expliquez-moi ça.
C'est-à-dire que ça touche tout de suite, mais pour longtemps.
Ah oui, c'est cela. Et pour vous, Joël Sambi ?
Pour moi, quoi ?
Lisette Lombé, la poésie, c'est une distance, la distance la plus courte entre deux êtres humains ?
Ouais. Ça et la musique, en fait.
Ouais, effectivement. Pierre Vinclair ?
Oh bah non, c'est la plus longue.
Ah oui, on voit bien.
Non, moi je voulais juste rebondir sur cette question des femmes. Alors c'est vrai qu'elles sont pas noires et LGBTQI et tout ça, mais il y a quand même une présence des femmes, y compris chez les formalistes, simplement pour complexifier cette affaire de j'ai pas ton temps, etc. Mm-hmm. Si on prend par exemple ce mois-ci, il y a un numéro de la formidable revue Europe sur Anne-Marie Albiac, qui est une poétesse des années 70 à 90, qui a fait une poésie extrêmement considérée comme hermétique, formaliste, etc., une espèce de de disciple à la fois de Mallarmé et de Zukovsky. Bon, c'était une femme et qui a produit une poésie extrêmement hermétique, extrêmement difficile. Je pense aussi à Emily Dickinson. Ouais. Emily Dickinson, c'est pas une poète dont les mots frappent comme ça de manière évidente. Elle est extrêmement tortueuse, compliquée, etc. Et moi, ce qui m'intéresse justement, c'est la manière dont le poème va pouvoir reconfigurer l'expérience qu'on a du monde et du coup nous emmener dans un état un peu d'étrangeté, de perplexité, qui est un petit peu le contraire de la distance la plus courte entre deux êtres, qui présupposerait qu'on utilise des canaux un petit peu rhétoriques déjà connus, quoi.
Oui, et donc avec la nécessité justement du dévoilement du chemin le plus long pour pouvoir aboutir à la relation avec l'autre. Est-ce que vous voudriez nous lire, Aurélie Olivier, un extrait de « Mon corps de ferme » que nous avons choisi parce qu'on le trouvait particulièrement représentatif de ce que vous écriviez?
Avec plaisir. Mélanome, lymphome, leucémie, tumeur du système nerveux central, cancer de la prostate. Il y a des risques accrus de développer certaines maladies au sein des exploitations familiales. Au fur et à mesure des années, je choisis sans choisir de partir pour mettre fin aux malédictions qui se répètent de génération en génération. Longtemps, je crois à l'efficacité de l'écran total. Longtemps, je crois à l'illusion de l'exact opposé. Longtemps, je dégénère.
C'est tiré de Mon corps de ferme, effectivement. C'est aussi les maladies professionnelles. Et d'une certaine manière, je l'ai évoqué récemment dans une chronique au Book Club, effectivement, ça nous dit quelque chose de la situation sociale de la paysannerie française aujourd'hui, que ce soit dans l'agroalimentaire en Bretagne, mais partout, pourrait-on dire. Donc il y a bien un ancrage dans le social.
Oui, bah moi en fait j'écris depuis moi. Hein. Du coup j'ai pas trop le choix en fait, que j'aurais adoré pouvoir écrire sur plein d'autres choses, voire être à distance des contraintes qui sont les miennes. Mais en fait j'écris depuis mon histoire, et mon histoire c'est avoir grandi dans une ferme traditionnelle conventionnelle dans les Côtes d'Armor. Donc je saurais pas faire autre chose.
Ça s'appelle Mon corps de ferme. Pour vous, Pierre Vinclair, on peut lire, effectivement, ça vient tout juste de sortir, mais ça n'est qu'un des très nombreux recueils de poésie que vous avez pu publier. Complainte & Cause, ça sort aujourd'hui au Castor Astral. Et pour vous, Joël Sambi, on peut recommander avec beaucoup de chaleur Et vos corps seront caillasses, paru le 16 février dernier aux éditions de l'Arche. Et puis évidemment, on se référera à votre lettre aux jeunes poétesses que vous avez initiée avec Chloé Delhomme, Sonia Cambretto, pardon, Rebecca Chaillon, Rim Batal, que j'ai cité tout à l'heure, Ryoko Sekiguchi et Nathalie Quintane, bien d'autres qui sont dans ce recueil Lettres aux jeunes poétesses aux éditions de l'Arche. Merci d'être venu, Aurélie Olivier. Merci Pierre Vinclair et merci Joël Sambi. C'était le temps du débat. Il va falloir que je me retrouve dans tous mes papier pour pouvoir conclure cette émission, parce que là j'ai des recueils de poésie partout, je ne sais plus où est la désannonce. En tout cas, c'était Jordan Fuentes à la technique et c'était Laurence Malonda à la réalisation.